Séoul au jour le jour. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. L'examen d'entrée à l'université, le Suneung, approche à grands pas. À une semaine du jour J, les candidats ne sont pas les seuls à se préparer. Les enseignants, chargés de la surveillance, sont aussi très occupés et les mécontentements parmi eux ne sont pas rares. Nous commençons l'édition de ce mercredi avec cette nouvelle. À l'approche du Suneung qui aura lieu le 13 novembre, certains enseignants chargés de la surveillance expriment leur mécontentement. En effet, le jour de l'examen, ils doivent rester debout toute la journée. De plus, il arrive que certains soient confrontés à des plaintes après l'épreuve. Ainsi, la préférence pour cette mission est en baisse. Cette année, selon le rectorat de Séoul, le nombre de candidats dépasse les 110 000 dans la capitale. Une augmentation significative qui a contraint de mobiliser davantage de surveillants de façon quasi forcée. Surtout, le nombre de lycéens de terminale a fortement augmenté par rapport à l'année dernière en raison de la hausse de la natalité enregistrée l'année de leur naissance, ce qui a entraîné une hausse de plus de 500 surveillants supplémentaires. Dans ce contexte, environ 4300 salles d'examen seront préparées, soit 100 de plus que l'an dernier. Le nombre total de personnels impliqués, y compris les surveillants, s'élèvera à quelque 20 000. Néanmoins, les enseignants considèrent la surveillance du Suneung comme une tâche à éviter. Le rectorat affirme qu'ils ne recrutent que des volontaires, mais en réalité, selon eux, il s'agit d'une mobilisation forcée. D'après un professeur de lycée qui assure la surveillance chaque année, il perçoit environ 170 000 à 180 000 won par jour, soit un peu plus de 100 euros. Mais compte tenu de la charge de travail, il préfère ne pas le faire. Selon une enquête effectuée juste après l'examen de l'année dernière auprès des enseignants, beaucoup ont répondu que plus l'expérience et l'ancienneté sont faibles, plus on est mobilisé comme surveillant. Le syndicat d'enseignants demande une réévaluation des indemnités et une amélioration des conditions de surveillance. Ils ont récemment soumis au ministère de l'Éducation 6 revendications, parmi lesquelles figurent la revalorisation de la rémunération, la fourniture de chaises et de bureaux, ainsi que l'externalisation de la gestion des équipements audiovisuels. Avec la diminution de l'importance des deuxièmes langues étrangères dans l'examen d'entrée à l'université, de plus en plus de lycées ne proposent plus de cours. Selon les données du ministère de l'Éducation, cette année, le taux s'élève à 17,8% contre 16% en 2021 et 16,8% en 2023. Parmi ceux qui en proposent, plus de 90% enseignent le japonais ou le chinois. Le français et l'espagnol sont enseignés dans 93 lycées chacun, l'allemand dans 61 et le russe dans 16, ce qui soulève des inquiétudes sur la réduction des conditions permettant d'apprendre des langues plus rares. Avec la modification du programme éducatif en 2022, les langues étrangères sont passées d'obligatoires à optionnelles, ce qui a eu un impact sur la proposition des cours. Les élèves, quant à eux, considèrent la deuxième langue étrangère comme une matière dont les avantages pour l'entrée à l'université sont réduits et tentent à l'éviter. Un enseignant de chinois a souligné que l'attention des adolescents se concentrait davantage sur les matières principales comme les sciences sociales et les sciences naturelles. Selon lui, la deuxième langue étrangère, qui est importante pour être compétent dans un environnement international, est négligée parce qu'elle n'est pas prise en compte dans l'admission universitaire. Le professeur a également expliqué qu'après la deuxième année de lycée, il arrivait que les élèves demandent à utiliser le cours de deuxième langue étrangère comme temps d'études autonomes. Ils souhaitent ainsi se concentrer sur les matières principales comme le coréen, l'anglais et les mathématiques. Une démarche que certains parents ont également en contactant l'école pour faire la même demande. Cependant, dans un contexte où le nombre d'élèves issus de familles multiculturelles progresse, certains appellent à renforcer l'enseignement des deuxièmes langues étrangères de diverses manières. Ils estiment que si des spécialistes des langues rares pouvaient enseigner dans des écoles à forte concentration d'élèves multiculturels, cela serait bénéfique pour les deux parties. Beaucoup de collégiens et lycéens sont préoccupés en permanence par leurs notes et leur orientation scolaire. Dans une réalité où ils sont accablés par les études et la préparation à l'examen d'entrée à l'université, il leur est souvent difficile de trouver du temps pour les loisirs ou la lecture. Une enquête récente menée auprès d'élèves de collèges et de lycées dans le Gyeongsang du Sud confirme cette situation. Selon les résultats, la fatigue et la perception négative liée à l'enseignement centré sur l'entrée à l'université restent très marquées chez les adolescents. Les principales difficultés évoquées par les sondés concernent l'orientation scolaire et les notes. Certains ont déclaré, je cite, « Les notes semblent être toute ma vie » ou « Si je n'entre pas à l'université, je me sens comme un raté ». Concernant le choix de l'orientation en première année de lycée, 27% des interrogés ont répondu que cela leur semblait difficile, dont 6% très difficile. Selon eux, changer d'orientation plus tard peut les désavantager pour l'admission à l'université. Le niveau des activités de loisirs est également préoccupant. 42% pratiquent presque jamais de sport et 65% ne lisent quasiment jamais. En ce qui concerne la sécurité dans l'environnement numérique, 22% des élèves estiment qu'elle est peu assurée et 4% qu'elle n'est pas du tout assurée. Par ailleurs, sur la prise en compte des avis des élèves dans le règlement intérieur de l'établissement scolaire, 24% des collégiens et 35% des lycéens se disent insatisfaits. Selon les analyses, notamment pour les lycéens, l'intérêt pour les questions politico-sociales et le désir de participation sociale sont plus importants que chez les collégiens. Mais dans le système scolaire actuel, centré sur l'entrée à l'université, la participation des élèves est mise au second plan. Avant d'enchaîner avec le prochain élément, écoutons une chanson. Voici « Non, non, tchè, tu es un livre » de Lin.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul le jour du mercredi 5 novembre, vous êtes en compagnie de Ko Jong-san. Beaucoup de personnes se soumettent régulièrement à un dépistage du cancer. Mais lorsque le résultat indique que la maladie est suspectée, combien d'entre elles consultent réellement un médecin? D'après une récente enquête publiée par le Service national de l'assurance maladie, le taux de suivi médical diffère nettement selon le type de cancer. Avec le conseil du Centre national du cancer, l'organisme a analysé les résultats de dépistage des 6 principaux cancers, à savoir ceux de l'estomac, du gros intestin, du foie, du col ultérin, du sein et du poumon. Il a classé comme suivi médical les cas de personnes jugées suspectes de cancer ou nécessitant des examens complémentaires. Les patients concernés sont ceux qui ont reçu un diagnostic de cancer ou des traitements pour une maladie connexe dans les 3 mois suivant la date du dépistage. Ce taux de suivi était le plus élevé pour le cancer du gros intestin avec 96%. viennent ensuite ceux de l'estomac, du sein, du poumon et du col ultérin, chacun dépassant les 70%. Le cancer du foie arrive en dernière place avec seulement 21%. Le taux moyen était de 82%. Le service national a expliqué que le faible taux du cancer du foie était dû au système de suivi régulier selon lequel les personnes à haut risque de cette maladie font l'objet d'un examen de contrôle tous les 6 mois. Actuellement, le dépistage du cancer organisé par l'État concerne les 6 principaux cancers et s'adresse à toute la population. Les établissements de dépistage envoient par courrier ou par d'autres moyens un avis aux individus pour lesquels un cancer est suspecté ou un examen complémentaire est jugé nécessaire. En particulier, pour le dépistage du cancer du poumon, un dispositif de consultation post-dépistage a été mis en place en 2019 pour proposer des conseils médicaux aux personnes concernées. Sur la base de cette analyse, l'institution prévoit d'élaborer des indicateurs permettant d'évaluer avec précision l'état actuel des traitements et de renforcer les critères de sélection et le dispositif de suivi en concertation avec le ministère de la Santé et le Centre national du cancer. Dernièrement, les escroqueries sentimentales suscitent de plus en plus d'inquiétudes. Elles consistent à entrer en contact avec une personne à travers les réseaux sociaux ou des applications de rencontres et à échanger pendant un certain temps afin de développer un attachement, puis à lui demander de l'argent pour divers prétextes tels qu'un investissement ou des frais médicaux. En Corée du Sud, ces arnaques commises sous prétexte de relations amoureuses ont pris de l'ampleur depuis 2020. Selon l'Agence nationale de la police, de février à décembre 2024, leur nombre s'est élevé à environ 1300. Cette année, entre janvier et juillet, il a atteint 1200. Sur les 73 affaires du genre ayant été jugées en première instance, le montant des pertes varie de 20 000 à 1,4 milliard de won, soit 12 à 840 000 euros. Récemment, les méthodes ont également évolué. Autrefois, il était courant que les escrocs se fassent passer pour des étrangers qui s'intéressent à la Corée du Sud ou prévoyaient d'y voyager ou bien des professionnels libéraux sud-coréens résidant à l'étranger. Ils s'approchaient leurs victimes en multipliant les démonstrations d'affection pour gagner leur confiance avant de solliciter un virement afin de s'emparer de l'argent. Ces derniers temps, ces escroqueries se sont associées à des organisations criminelles étrangères pour devenir des crimes organisés et internationaux. Dans de nombreux cas, des groupes basés en Asie du Sud-Est embauchent des Sud-Coréens qui peuvent approcher leurs compatriotes sans barrière linguistique. Une étude portant sur 10 cas de fraude de ce type a révélé que la durée entre le premier contact avec la victime et la fin de l'escroquerie était en moyenne de 8 jours. Pendant cette période, le nombre d'échanges s'élevait à 1200, soit l'équivalent de 38 heures. Il est plus difficile d'identifier les instigateurs des arnaques sentimentales que les escroqueries ordinaires en ligne. Étant donné qu'elles reposent sur un lien affectif, les victimes subissent, en plus de pertes financières, une souffrance psychologique importante. C'est pourquoi il est rapporté qu'elles ont tendance à avoir du mal à accepter la situation, à se blâmer et à dissimuler ses crimes. Afin de les prévenir, il est souligné qu'il faut surveiller en permanence les nouvelles formes de fraude liées aux progrès technologiques comme l'intelligence artificielle, ainsi que de sensibiliser le public aux méthodes utilisées par les escrocs. Avec le succès planétaire de K-pop Demon Hunters, dans lequel apparaît le tigre Topi, les tigres coréens sont en vogue à l'étranger. il est reconnu qu'ils ont disparu sur la péninsule coréenne. Or, récemment, des informations non vérifiées circulent sur Internet selon lesquelles des tigres vivant en Russie et en Chine se seraient déplacés vers la Corée du Nord. Ces fauves seraient-ils vraiment de retour? Le dernier enregistrement officiel d'une capture de tigre au sud du 38e parallèle date de 1924. Le ministère de l'Environnement a officiellement déclaré en 1996 que les tigres coréens avaient disparu. Cependant, jusqu'aux années 2000, des témoignages sporadiques rapportaient des observations de cet animal, mais aucune n'a été confirmée. Selon un expert, de nombreux témoignages ont été signalés en Corée du Nord, mais aucune preuve photographique ou matérielle n'a permis de les confirmer depuis longtemps. Cependant, certains scientifiques russes estiment que ces fauves pourraient être présents dans la région du mont Pekto. Alors, les tigres venant de Chine ou de Russie pour rejoindre la péninsule coréenne sont-ils des autochtones ou des espèces étrangères? En réalité, leurs appellations sont nombreuses et varient selon les régions ou les pays, mais ils appartiennent tous à la même espèce sur le plan génétique. Ceux vivant sur la péninsule ont disparu, mais d'autres ont survécu à l'étranger. Et grâce à l'attention et aux efforts de plusieurs pays, leur nombre a augmenté. Serait-il possible que ces animaux se rendent jusqu'en Corée du Sud? En Russie, en 2021, une découverte indiquait qu'un tigre s'est déplacé de plus de 1200 km, une distance largement suffisante pour traverser toute la partie terrestre de la péninsule coréenne, ce qui laisse penser que ce pourrait être possible. Toutefois, le fauve devrait traverser la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées, avec ses clôtures en fer et ses champs de mines. Les tigres devraient donc nager pour atteindre le sud. Comme ils sont de bons nageurs, les spécialistes estiment qu'on ne peut pas affirmer qu'avec certitude que cela est impossible. Cependant, il est beaucoup plus probable que cela ne se produise pas en raison de la difficulté du parcours. Et voilà, c'est le moment de retrouver l'invité du mercredi présenté par Ohayon. Avant de la rejoindre, je vous propose de partager un des commentaires de nos auditeurs. Dans le dernier épisode de l'invité du mercredi, nous avons rencontré Nicolas Godemet, l'auteur du livre « Nous n'avons rien à envier au reste du monde ». À ce propos, Annick Thierry a laissé ce message. Ça y est, acheté. Merci beaucoup pour ce commentaire. Avant de passer à la suite, profitons d'une petite pause musicale. Voici Horangi, tigre de Super M.
Chaque mercredi, vous êtes invité à découvrir une personnalité qui œuvre pour les échanges entre la Corée et le monde francophone. Vous êtes bien au 13 boulevard Yoi. Et vous avez rendez-vous avec Ohayang.
Bonsoir à tous. Céline est l'auteur de Deux Coréennes, sorties en 2019 en France. Comme elle le dit à la page 142, lorsqu'un événement est en cours, le deuil est impossible à faire. Les Nord-Coréens continuent de fuir leur pays et nos deux Coréennes, elles, continuent de rencontrer le public international. Notre nouvelle invitée de la semaine nous raconte ce qui l'emmène cet automne à Séoul, ce qui est devenu Jiyeon, l'héroïne de son ouvrage, ainsi que de leur projet. Restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Ohayang.
Tout d'abord, un grand merci de me recevoir pour ce moment de partage. Trois raisons pour mon voyage en Asie cette année. La première étant une invitation qui m'a été offerte par l'Alliance française à Singapour. La deuxième raison, c'est l'invitation du collège Dulwich à Séoul. Mmh. Et j'adore ce genre d'audience parce que quand vous leur parlez, vous voyez qu'ils ont cette espèce d'éclair dans leurs yeux. Mmh. Et la troisième raison, en fait, c'est l'anniversaire du décès de mon papa.
Ça fait presque 5 ans que Les Deux Coréennes est sorti en français, mais pour nos auditeurs qui n'ont pas encore pu lire, pouvez-vous nous le présenter ?
J'ai rencontré Park Ji-hyun, donc cette réfugiée nord-coréenne, en 2014. Mm-hmm. Pas du tout de façon planifiée, mais un peu par accident. Amnesty International tournait un documentaire sur sa vie. Mm-hmm. Et sans vraiment le savoir, j'ai été invitée sur le plateau de tournage parce que l'interprète qui devait être là ce jour-là était malade, n'est pas venue. Donc, demande de dernière minute, c'est Amnesty International qui me le demandait, je ne pouvais pas dire non. Donc je me retrouve à Manchester, je rencontrais une personne nord-coréenne pour la première fois de ma vie.
Sans préparation.
Sans rien du tout, sans préparation, ni mentale, ni physique, enfin rien du tout. Mm-hmm. Et c'était plutôt un choc, comme je suis un produit de l'éducation anticommuniste, si vous voulez. Et j'ai été plutôt traumatisée par cette expérience. Finalement, c'est cette journée que j'ai dû passer avec elle en écoutant toute son histoire, toute sa vie en Corée du Nord pour faire le documentaire. J'ai quitté le lieu d'interview en me disant que je ne le reverrai plus jamais. Mais il se trouve que, encore une fois, un petit peu par hasard, 2 ans plus tard, je la revois. Je la revois dans une conférence internationale sur les droits de l'homme à Londres. Et là, c'est là où elle me demande si je peux écrire un livre pour elle. Alors, la fille de diplomate que je suis aurait dû lui tourner le dos et partir. Mais c'est l'être humain en moi, finalement, avec ses valeurs humaines, ses responsabilités morales, si vous voulez, qui est restée.
Comment vous avez échangé avec elle pour rédiger cet ouvrage ?
Alors, 3 langues. C'est-à-dire que la raison pour laquelle elle m'a demandé d'écrire le livre, c'est parce qu'elle savait que je parlais coréen et qu'elle voulait communiquer en coréen. On lui avait déjà fait des demandes comme quoi il y avait un Canadien, il y avait un Anglais qui voulait écrire sur sa vie. Et elle avait dit non parce que ça impliquait travailler avec un traducteur, etc. Et elle ne voyait pas du tout ça, ça comme ça. Donc elle m'a dit, avec toi au moins je parlerai coréen et je me sentirai à l'aise. Donc on a dialogué en coréen. Ensuite, je lui avais dit dès le départ que j'écrirais en français parce que c'était ma langue de formation intellectuelle. J'avais expliqué mon background, etc. Donc, j'écrivais mes chapitres en français, sauf qu'elle ne comprenait pas le français. Donc, à chaque fois que j'écrivais un chapitre, je le faisais traduire en anglais pour qu'elle puisse le lire et me dire si elle est d'accord, si elle était d'accord ou non.
Mais le coréen que vous parlez toutes les deux,
oui,
est différent aussi.
Ah oui, il est différent. Et dans le livre, d'ailleurs, je mets des mots nord-coréens aussi bien que des mots sud-coréens. Parce que je voulais, c'était par souci d'authenticité. Quand elle parle, je voulais utiliser ces mots. Alors, par exemple, un mot tout simple comme le maïs. On dit okjusu en coréen du sud. Et là-bas, ils disent ça, ils appellent ça le kangnengi.
Mais qu'est-ce qui a été le plus dur en rédigeant cet ouvrage ?
Alors, au niveau du contenu, quand même, la violence, parce que c'est quelque chose qui est inimaginable. Et parfois, j'hésitais à écrire certaines scènes parce qu'elles étaient trop violentes. Je lui demandais sa permission. Je lui disais, écoute, par exemple, est-ce qu'on peut ne pas écrire sur la scène de torture de ton frère ? Et elle me disait que non, c'était pas possible, parce que c'est simplement un témoignage et que tout devait y être, que c'était pas un roman ou une fiction.
Par contre, des moments amusants ?
C'est surtout les moments qu'on a partagés en parlant de son enfance en Corée du Nord. Et quand je vous disais qu'elle a eu une enfance heureuse, c'est une enfance heureuse. Comme tous les enfants, ils ont des jeux, ils se moquent chacun l'un de l'autre. Par exemple, quand ils jouaient, elle, c'était toujours la chef. Ça a été toujours une espèce de tomboy, cette fille. Donc, elle envoyait balader tous ses copains en les traitant de sud-coréens. D'accord ? La pire des insultes. Avec ses copines, quand elle se moque de ses copines, elle emploie des mots, mais moi qui me faisais mourir de rire. Par exemple, Bugundeji, pour appeler sa copine. Bugundeji, c'est même pas un vieux porc, c'est un porc qui est sédentaire, qui est rassis. Enfin, c'est vraiment pas très sympa, et, mais ça fait partie de leur vocabulaire de tous les jours. Donc ce sont ces épisodes qui allégeaient un petit peu nos discussions et nous faisaient rire, heureusement.
Je pense que je ne vais pas être la seule à être curieuse de connaître ce qu'est devenu Ji-hyun, l'héroïne de deux Coréennes.
Elle se fait un peu le porte-parole des réfugiés nord-coréens, pour ceux qui n'ont pas réussi à échapper finalement. Et puis, elle fait aussi de la politique. Alors, elle est membre du conseil régional de Manchester, par exemple. Elle est très très connue, elle se fait inviter par le roi tout le temps. c'est une grande personnalité maintenant en Angleterre. On fait aussi beaucoup de présentations ensemble quand on peut.
Vous n'envisagez pas un tome 2 ?
Alors, le tome 1, effectivement, s'est arrêté lorsqu'elle est arrivée en Angleterre. Et il était question d'écrire ce qu'allait devenir donc, sa vie en Angleterre depuis qu'elle est arrivée, donc depuis 2008. Et en fait, on a toutes les deux été tellement prises, chacune de notre côté, par les événements, qu'on n'a jamais vraiment trouvé ni le temps ni l'esprit de se dire « bon, bah, quand est-ce qu'on écrit le deuxième ?» Mais je dois vous avouer que j'ai eu tellement de mal à écrire ce livre.
L'accouchement a été dur.
J'ai mis tellement de moi-même. Et après, j'ai mis 6 ans à l'écrire quand même, ce livre, hein, parce qu'il y avait un manque de confiance au départ. Hein. On ne se faisait tout simplement pas confiance. On ne voulait pas s'ouvrir l'une à l'autre. Alors, à la limite, moi, je lui demandais de s'ouvrir pour que j'écrive, pour que je puisse écrire le livre. Mais elle, de son côté, elle s'attendait aussi à ce que moi, je m'ouvre. D'accord ? Et ça, c'était dur. J'ai mis beaucoup de moi-même, il y a eu beaucoup de souffrance aussi à la suite de l'écriture parce que j'étais un petit peu perdue après 6 ans d'avoir été dans la tête de cette Nord-Coréenne. J'arrivais plus trop à trouver mes repères, donc j'ai mis du temps à me remettre aussi à ma propre vie et je ne sais pas si je suis prête à le refaire.
Est-ce que ce livre va être encore traduit dans d'autres langues ?
Oui. Alors, il a déjà été traduit en 6 langues, comme vous le savez, donc le français, l'anglais, le chinois, le coréen, le tchèque et le néerlandais. On vient de me faire la demande pour le traduire en suédois, donc je pense qu'il va sortir courant 2025, sinon début 2026, en espagnol, et on essaie d'en faire un film prochainement. Donc... c'est un projet qui me prend beaucoup de temps, mais qui en même temps que je ne laisserai jamais, qui va me durer toute ma vie finalement.
Bonne chance pour tous vos projets et merci pour cet entretien.
Merci Florence.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Kujan Son avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.